Une grande table des idées en public du Grand Amphi de la Sorbonne aujourd'hui dans le cadre de notre forum Les Idées Claires, main dans la main avec France Info et son directeur adjoint, Lucas Manger, bonjour.
Bonjour Olivia.
Bonjour à vous qui êtes avec nous aujourd'hui, bonjour, bienvenue. Qu'on les appelle fake news ou infox, on pourrait d'abord s'interroger sur notre besoin de mots nouveaux pour nommer une réalité que Donald Trump n'a pas inventée, tout juste popularisée à l'ère d'Internet et des réseaux sociaux. Dans son sillage, d'autres mots comme celui de post-vérité ou de fact-checking sont arrivés. La vraie nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, chacun peut faire son film et le diffuser à grande échelle via les réseaux, que la crédibilité et l'autorité de nous, les journalistes, des politiques, des scientifiques, est remise en cause. Le complot, le mensonge, les représentations du réel, biaisé ou vérité, c'est une matière formidable pour le cinéma et qui s'en est emparé d'ailleurs depuis assez longtemps, derrière Orson Welles, Kubrick, Lynch, Oliver Stone ou encore le français William Carell. Notre invité à nous aujourd'hui, c'est le cinéaste Éric Rochant, réalisateur de longs métrages. Vous avez peut-être vu Un monde sans pitié, Les Patriotes, Moebius, et surtout réalisateur de la meilleure série française, Le Bureau des légendes, bureau qui abrite des agents de la Direction générale de la sécurité extérieure, la DGSE. La saison 4, ça y est, elle va débuter bientôt, le 22 octobre, ce sera sur Canal. Qu'est-ce qu'une légende d'ailleurs, celle que la DGSE fabrique pour ses agents en mission, si ce n'est une fake identité ou une identitox, pourrait-on dire. Bonjour Éric Rochant.
Bonjour.
Vous êtes le concepteur de la série française la plus étudiée, la plus passée au crible du fact-checking pour distinguer le vrai du faux. Quels sont pour vous aujourd'hui les enjeux d'une narration que vous avez voulu réaliste ? Parce que c'est un mot qui revient souvent dans votre bouche, hein, sur le bureau des légendes, vous vouliez que ce soit une série réaliste.
Alors moi je viens, ma cinéphilie vient du cinéma américain des années 70. C'est en regardant ces films de Sidney Lumet, Pacula, Pollack, que c'est cette cinéphilie qui a nourri mon désir de faire des films. Et c'est un cinéma qui vient du reportage. C'est un cinéma qui vient de, non pas de la télé, mais du télé-reportage. C'est-à-dire c'est un cinéma de reporters. Et d'ailleurs, ils ont une manière de filmer au téléobjectif, par exemple, qui permettait à ce moment-là de mieux faire croire à ce qu'on filme, puisqu'on est loin pour le filmer. Hein, le téléobjectif, c'est ça. Ça donne l'impression qu'on observe les choses en les laissant advenir. On n'intervient pas dans ce qui advient. On est loin, on a un téléobjectif. Donc voilà, cette utilisation, par exemple, de la longue focale était typique du cinéma américain des années 70. Moi, je viens de ce cinéma-là, qui est aussi un cinéma subversif, c'est-à-dire qui est un cinéma qui remet en cause un certain nombre d'idées préconçues. Par exemple, c'est le cinéma contre la guerre du Vietnam, c'est le cinéma contre la CIA et contre les complots de la CIA, c'est le cinéma contre Nixon. Voilà, les hommes du président est typique de ce cinéma-là. Donc, c'est un cinéma qui s'est posé comme étant un cinéma réaliste. Alors, ça veut dire quoi, réaliste ? Et la question est importante, puisqu'effectivement, moi, je veux inscrire, finalement, ma série, Le Bureau des légendes, dans les séries réalistes, que peuvent être, par exemple, Les Sopranos, The Wire, qui sont des grandes séries américaines, et qui sont des séries réalistes. Réaliste, ça veut dire quoi ? C'est une certaine façon d'écrire les scénarios, c'est une certaine écriture. Qui consiste en fait en quoi ? Je me pose la question à moi-même et après je vais...
Mais on espère que vous allez nous le dire quand même.
En fait, qui consiste à inscrire nos histoires, les histoires qu'on raconte, car on est dans le registre de la fiction. Attention, c'est très important. La grande différence avec les fake news. Nous sommes dans le registre de la fiction et non pas de l'information. Et on se présente comme étant une fiction. La grande différence. Eh bien, dans le registre de la fiction, nous essayons d'inscrire nos histoires dans le monde qui nous entoure en vrai. C'est ça, le réalisme. C'est-à-dire que on confronte nos personnages à des événements ou à des situations qui sont celles qu'on rencontre en vrai. Donc, évidemment, c'est une fiction, donc il y a une intention derrière, c'est une histoire qui est maîtrisée, qui est écrite. Mais elle se présente dans le registre du réalisme. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, et ça c'est très important, quand je travaille par exemple avec mes scénaristes, c'est une éthique d'écriture qui est extrêmement importante. Les personnages, il ne faut pas les aider en les mettant dans des situations qui les arrangent. Il ne faut pas les mettre dans des situations qui nous arrangent, nous, scénaristes. On met les personnages dans des situations un peu compliquées, dans lesquelles on ne sait pas comment ils vont s'en sortir, mais ça serait trop facile de les mettre dans des situations qui les arrangent et qui nous arrangent. Donc on les met dans des situations réelles. Ça veut dire quoi ? Des situations qui ne leur sont pas données. Nous inscrivons nos histoires dans un monde qui nous est donné à nous, qui nous est donné, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas. Ça, c'est le réalisme.
Mais vous avez aussi employé un grand mot ou un gros mot, vrai. Qu'est-ce qui est vrai aujourd'hui et qu'est-ce qui est faux ? Et si on prend comme exemple le Bureau des légendes, si on prend ce monde de la sécurité et du renseignement, comment savoir ce qui est vrai ? Comment vous et vos scénaristes pouvez, mieux que nous, savoir où est le vrai du faux et le distinguer ?
Alors nous, on ne sait pas ce qui est vrai ou faux. En fait, la question de la vérité est une question qu'il faut absolument déconnecter de la question de la réalité. La réalité et la vérité, ce n'est pas la même chose. On peut décrire une réalité, on peut présenter une réalité, on n'en dit pas moins, enfin, ça n'a pas tellement de rapport avec savoir si on dit la vérité. Dire la vérité, c'est quelque chose qui est plus profond dans une création artistique. Nous écrivons, nous faisons des films pour dire la vérité. Mais pas la vérité sur le monde, pas la vérité du monde, ça c'est la réalité. Nous créons pour dire la vérité sur ce qu'on est nous-mêmes. Nous ne savons pas ce qu'on est, nous ne savons pas ce qu'on ressent. Nous ne connaissons pas les émotions qu'on ressent. Le langage n'est pas suffisant pour rendre compte de nos affects et de rendre compte de ce qu'on ressent. Et l'art est fait pour dire ce que l'on ressent, pour dire ce qu'on vit par et à travers. Et je dis, Proust disait par et malgré le langage. Nous n'avons pas d'autres ressources que le langage pour communiquer ce qu'on ressent et pour communiquer aux autres ce qu'on ressent, mais le langage est aussi une contrainte. Et c'est pour ça que l'art existera toujours, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que les machines ne feront jamais d'art. Bon, ça c'est une autre question. Mais je voudrais revenir sur une chose très très importante. C'est que le réalisme décrit un monde qui est donné et non pas qui est issu de notre propre subjectivité. C'est ça qui fait la réalité. La réalité, elle nous est donnée. On n'y peut rien. Et des fois, elle est très décevante. Des fois, elle est très frustrante. On espère quelque chose et ça n'arrive pas. On a foi en quelqu'un et la personne, étant humaine ou vilaine, nous déçoit et nous trahit. Nous sommes trahis par... Toutes nos espérances peuvent être trahies par la réalité. La réalité n'obéit pas à nos désirs. C'est ça qui est très important. Et donc, j'en finis, après je vous laisse parler un peu. Les fake news, c'est le contraire de ça. Les fake news, c'est une information qui ne se présente pas comme une fiction. Grande différence avec la fiction. La fake news se présente comme une information. Elle avance masquée. C'est une fiction qui ne se présente pas comme telle. Ça, c'est la grande différence avec un film ou avec une fiction. Mais surtout... c'est qu'elle correspond à un fantasme. La fake news correspond toujours à un désir. Elle conteste à la réalité. Elle conteste à la réalité sa nature de donner. La fake news correspond toujours au désir, à un espoir, à une crainte de celui à qui elle s'adresse. Elle flatte un désir, elle flatte une crainte, elle flatte une peur. Et c'est pour ça que la fake news est, par excellence, un instrument de manipulation politique.
Éric Rochon, hier j'ai fait quelque chose de très agréable que je vous invite tous à faire, c'est de revoir Les Patriotes, le film que vous avez fait en 1994 et qui relate des événements qui s'inscrit dans une réalité, pas forcément dans une vérité comme vous le disiez, dans une réalité qui est du début des années 80, au moment où l'État d'Israël essaye d'empêcher les États arabes d'avoir des centrales nucléaires et donc toute une opération de manipulation. Et d'ailleurs le film s'ouvre là-dessus, la manipulation est notre métier. Et il y a à la fin, sans re-raconter toute l'histoire, mais dans laquelle vous posez tous les jalons déjà de ce que va être ensuite le Bureau des légendes, enfin ou en tout cas dans certains des personnages, cette phrase d'un des patrons du renseignement israélien, du Mossad, qui dit à l'un de ses agents complètement dépressif et triste et mélancolique, comme vous le disiez tout à l'heure, il lui dit « mais vous voyez tout en noir ». Et je trouve que cette phrase montre bien à quel point, dans cette manipulation, on touche à ces choses-là, c'est-à-dire que, en l'occurrence dans ce film, même les services entre eux se manipulent évidemment leurs propres agents, mais se manipulent entre eux. Et ce vous voyez tout en noir est aussi ce monde de la manipulation, c'est-à-dire de faire croire à l'autre en jouant sur ses fantasmes et sur ses peurs, comme vous le disiez.
Oui, alors je voudrais faire un tout petit détour par une technique d'écriture qu'on connaît bien quand on écrit les scénarios. Il y a deux types de narration quand on écrit. Quand on commence un film ou qu'on commence une série, les quatre premières, enfin le premier quart d'heure de la série, même le premier épisode d'une série ou le premier quart d'heure d'un film est stratégique. On peut perdre tout le monde si on est ennuyeux et on peut capter l'attention par un certain nombre de techniques.
Bon. Ça vaut aussi en radio. Hein.
Voilà, très bien. J'espère.
Je mets pas la pression. Hein.
Alors, on est toujours dans le premier quart
d'heure. Là, je commence. Ça, c'est le premier quart d'heure, le premier épisode de ce que je vais dire. Il y a deux façons il y a deux types de narration. La première narration, c'est on prend le spectateur par la main et on l'emmène quelque part. Et le spectateur se laisse guider. Donc c'est une scène après l'autre. Le spectateur, évidemment, ne sait pas ce qui va arriver. Et la narration le fait se promener dans un nouveau monde qu'il ne connaît pas, le monde de l'histoire elle-même. Il ne sait pas où ça va, mais il se laisse emporter. Là, la force des scènes, si c'est bien écrit, la force des scènes fera qu'il restera devant son écran. Bon. Il est comme dans un car, il regarde par la fenêtre, il trouve ça sympa, beau, intéressant. Il ne sait pas où va le car, il se laisse guider. Ça, c'est une narration, je dirais, contemplative. Et c'est une narration à laquelle on ne peut pas échapper toujours. Il y a un autre type de narration, qui est celle-là beaucoup plus prenante, c'est qu'on crée un désir chez le spectateur. C'est pas seulement qu'on l'amène quelque part, on lui donne envie d'aller quelque part. Ou alors, on lui donne envie de ne pas y aller. C'est-à-dire qu'on crée chez lui un désir, par des techniques de narration, il espère que telle situation va arriver, ou il craint que telle situation va arriver. Et là, tout d'un coup, il reste devant son écran. Parce qu'on joue là-dessus. On a créé ce désir, on a créé cette tension narrative, et à ce moment-là, il reste parce qu'il a envie de savoir si, il n'a pas envie de savoir ce qui va se passer, ça c'est la narration contemplative. Il a envie de savoir si ça va arriver, soit parce qu'il l'espère, soit parce qu'il le craint. Donc, c'est une narration qui correspond à un désir. Un désir a été créé, et ça, c'est le ressort même du suspense, c'est le ressort même de la tension narrative.
En deux points, vous venez de démontrer, Éric Rochant, l'énorme responsabilité aussi, aujourd'hui, des scénaristes et des réalisateurs, à la fois à l'égard ou à l'encontre de cet univers que vous représentez, et si on revient au Bureau des Légendes, on peut évoquer la DGSE, et à la fois par rapport au spectateur qui va recevoir cette réalité que vous lui narrez, cet univers que vous lui montrez et dont il ne connaît peut-être pas grand-chose de plus que ce qu'il va apprendre de vous. Alors, question simplement franche et directe, est-ce que parfois vous avez le sentiment ou est-ce que vous y allez en vous disant que peut-être vos informateurs de la DGSE, ceux qui vous aident à mieux comprendre cet univers que vous allez nous raconter, vous manipulent dans les informations qu'ils vous donnent? Et est-ce que vous vous demandez aussi si vous, le réalisateur, le cinéaste, le scénariste, vous pouvez nous manipuler avec les images que vous produisez?
Alors, rectification. Je n'ai pas d'informateur de la DGSE.
Vous avez des conseillers.
Mes principaux informateurs, ce sont les journalistes, et je suis désolé de vous le dire. On trouve tout sur Internet. Vous voulez savoir comment faire une filature? Tapez filature, agent secret, espionnage sur Internet, vous allez trouver. Vous voulez savoir comment, brouiller vos communications? Tapez brouillage, communication, téléphone, vous allez trouver. Vous voulez savoir comment décrypter ou hacker un téléphone, vous tapez ça et vous allez trouver. Donc on trouve tout sur Internet. On n'a pas besoin d'avoir des secrets d'État pour ça. Mais c'est vrai que la création narrative, c'est une manipulation. Bien sûr, c'est une manipulation. Nous manipulons et nous connaissons les techniques de manipulation des lecteurs, des spectateurs. C'est la manipulation narrative, mais c'est une manipulation totalement acceptée. Et qui se présente comme tel. Quand on va voir un film, quand on va au cinéma, on va dans un espace où enfin on va se laisser manipuler. Pourquoi? Parce que du coup, c'est le principe même du point de vue, c'est le principe même de l'intention. C'est le principe même qu'on va épouser le regard de quelqu'un d'autre. Notre regard dans une salle de cinéma est manipulé par le regard de quelqu'un d'autre. On se laisse aller dans le regard de quelqu'un d'autre, en espérant qu'il soit intéressant et en espérant qu'il soit éclairant. Mais ce que je disais tout à l'heure par rapport à la narration contemplative et la narration fantasmatique, je dirais. Eh bien, c'est la même différence entre la fake news et la vraie information. L'information a un rapport avec le monde tel qu'il nous est donné et tel qu'il peut nous décevoir, tel qu'il peut nous surprendre et quelquefois tel qu'il peut nous satisfaire. La fake news a à voir avec l'information qui correspond à un désir. La fake news correspond toujours à une crainte ou à un désir qu'on a. Elle est le principal outil de manipulation politique des antidémocrates, je dirais.
La manipulation, elle a toujours existé, sauf qu'elle a pris une ampleur, selon vous, totalement différente ces dernières années, grâce ou à cause des réseaux sociaux. Et ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a une manipulation acceptable et une manipulation qui est inacceptable. Ces manipulations-là de grande ampleur sont devenues inacceptables par leur ampleur ?
Non, il y a une manipulation qui est consentie.
Consentie, et non pas acceptée.
C'est le principe même de la fiction. Et une manipulation qui ne l'est pas. Alors là, pour le coup, qui est un vrai leurre. Bon, alors, effectivement, on a l'impression qu'aujourd'hui, on entre dans un nouveau monde qui est caractérisé, à mon avis, par deux choses. Qui est caractérisé d'abord par le rejet des élites. Et le rejet des élites met place dans le paquet des élites l'information et les journalistes. Les journalistes et l'information, c'est les élites. Donc le rejet des élites devient un rejet de l'information. On nous ment. On nous ment, on nous dit pas la vérité. Les gens qui sont censés nous informer nous mentent. Donc on inverse d'ailleurs l'accusation. Hein. Les fake news, c'est mentir, mais ça repose et ça se nourrit de cette impression que de toute façon la vraie information, enfin la vraie, qui est toujours limitée, hein, est un mensonge. Donc c'est une première chose.
Mais ce rejet est alimenté par des fabriques de fausses informations.
Il est alimenté par ce qu'on appelle les troll factories, c'est-à-dire les usines à produire des nouvelles, les usines à produire une réalité qui va correspondre à notre fantasme et donc qui va du coup évidemment induire notre opinion. C'est ça qui est très important.
J'en reviens au cinéma. Hollywood n'est pas une troll factory pour vous ou ne l'a jamais été ?
Hollywood a pu jouer sur une certaine perspective du monde, mais Hollywood, c'est des films, donc ce sont des fictions qui se présentent comme telles. On va voir un film et on sait très bien que ça correspond à une intention, on sait très bien que ça correspond à la vision de scénariste et de cinéaste, ou même peut-être même à la vision de producteur. Mais ça se présente comme une fiction, ça se présente pas comme une information, c'est la grande différence. La différence, c'est que quand... Alors, ce qui est intéressant, c'est que la fake news ne peut proliférer que sur la base d'une réelle suspicion envers les journalismes, le journalisme tel qu'on le connaissait, c'est-à-dire par exemple le journalisme d'investigation, ceux qui sont là pour dire la vérité. Ceux qui sont là pour dire la vérité face à un pouvoir qui a tendance à vouloir toujours, disons, la travestir. Les journalistes, l'information, puisqu'on parle de ça, l'information, c'est un contre-pouvoir au départ. C'est un contre-pouvoir. Donc, et les hommes du président, hein, de Sidney Pollack, c'était ça. C'est le contre-pouvoir, les journalistes qui finalement découvrent la réalité du complot. Bon. Et même, là, maintenant, on inverse ça. On dit, mais ces gens-là qui sont des contre-pouvoirs, en fait, sont des menteurs. Et c'est, donc, le pouvoir ou les pouvoirs sont en train d'inverser la charge de la preuve, on pourrait dire. Les pouvoirs sont en train d'accuser les journalistes et l'information d'être des menteurs. Pour mieux pouvoir asseoir leur vérité officielle.
Ce que vous décrivez là, c'est le système de Donald Trump quasiment quotidien, heure par heure, de dénoncer le fait que les grands médias américains, CNN, New York Times, tout ça, sont, quand il passe son temps à dire liars, ce sont des menteurs en permanence. Il est donc un acteur de cette fabrique de fake news, d'une certaine manière.
Bien sûr, parce qu'en fait, comment peut-on réduire le pouvoir des journalistes, le contre-pouvoir, le pouvoir subversif des journalistes? Comment le réduire? En le relativisant. En disant, il y a une vérité, oui, mais il y en a une autre. Il y a celle-là.
Vérité alternative.
Et voilà, c'est extraordinaire. La notion de fait alternatif, c'est fait pour justement relativiser, disons, la recherche, je ne dis pas l'objectivité, mais la recherche de la vérité à travers l'information. Donc la contre-information, qui finalement est aussi intéressante, aussi importante que l'information. Mais là où on peut toujours la dénicher, je dirais, c'est que la contre-information ou le fait alternatif correspond toujours à un désir.
Mais est-ce que vous ne réduisez pas à votre tour, Éric Rochant, le pouvoir du cinéma en estimant que cette manipulation, elle est consentie de la part du spectateur ? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas attendre aussi de la fiction qu'elle rétablisse la vérité ou une certaine vérité dans un monde où il est plus possible ou très difficilement possible de distinguer le vrai du faux?
Si, je pense que ça peut être vraiment une des missions du cinéma, de la série, de la création. Bon. Parce que ce qui caractérise aujourd'hui les réseaux sociaux, la nouvelle entité subjective que constituent les réseaux sociaux, c'est une entité subjective collective et rapide et éphémère et immédiate, donc qui rejette toute possibilité de raisonnement, de prise sur le temps, de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps de comparer les faits, de prendre le temps de vérifier ses sources. C'est ça, hein. C'est le temps de la raison, le temps du raisonnement, le temps de la logique et le temps de la complexité. C'est complexe, le monde est complexe. Bon, les réseaux sociaux arrasent tout ça. Le monde doit être simple, doit correspondre à des désirs, à des craintes et à des espoirs. Donc là-dedans, je pense effectivement que une série comme la mienne, comme le Bureau des légendes ou comme toutes les autres séries, des films et des écrits, c'est une résistance du temps. C'est une résistance du temps face à l'immédiateté de la fausse information. Donc effectivement, il y a un monde à décrire. Et d'ailleurs, ça ne s'arrêtera jamais. Hein. Heureusement, c'est super parce que on continuera à créer et on continuera à créer pour rendre compte de la façon dont on vit le monde. Nous, chacun, chaque créateur, rend compte de la façon dont il reçoit le monde. Eh bien, ce compte-rendu artistique, ce compte-rendu créatif, c'est la réponse, je pense, effectivement, c'est la réponse à ce discours qui s'adresse à l'entité subjective que sont les réseaux sociaux, un discours simpliste, évidemment, et manipulateur.
Dès lors se pose aussi la question de l'indépendance de la création, parce qu'un cinéma embedded, comme on pourrait dire pour les journalistes, ça a existé et ça existe encore aujourd'hui. On peut relire le livre, ou tout simplement le lire ou l'ouvrir, de Pierre Conessa récemment, Hollywood, sur Hollywood, comme arme de propagande massive. J'en reviens, mais on pourrait s'intéresser simplement au cas de la France, qui montrait comment les réalisateurs américains ont été enrôlés pour convaincre l'opinion pendant les guerres ou l'entrée de l'armée américaine dans les guerres, comment le cinéma a développé une vision du monde et de l'Amérique, comment aussi il a participé à la construction de l'ennemi. Cette question-là, vous vous la posez, vous, avec le Bureau des légendes, qui est une série géopolitique aussi, la question de la construction de l'ennemi.
Oui, on se la pose et on s'appuie sur une façon de voir le monde qui est celle que je crois être celle des services de renseignement français, en tout cas des services de renseignement dans des sociétés démocratiques. Les services de renseignement ont pour job de donner une vision la plus lucide possible du monde pour que les pouvoirs, pour que les gouvernements puissent agir dessus en toute connaissance de cause. Le problème se pose quand, par exemple, la CIA ment manifestement sur la réalité des armes chimiques. Ça, c'est un mensonge qui consiste à manipuler les dirigeants, mais à la demande des dirigeants. Il n'empêche que, par exemple, la DGSE a comme job, comme tous les autres services de renseignement, d'essayer de rendre compte du monde tel qu'il est, des menaces telles qu'elles se présentent, mais dans leur complexité. Elle n'est pas là pour dire « voilà l'ennemi », elle est là pour dire « voilà quelles sont les forces en présence, voilà comment ça fonctionne pour pouvoir ». Donc ce regard, en fait, est un regard sans fantasme, sans idéologie sur le monde tel qu'il est. Et c'est vrai que ce regard-là sur le monde tel qu'il est, sans vouloir faire de ce regard un instrument de propagande, sans faire de ce regard quelque chose qui consiste à dire voilà les méchants, voilà les gentils, voilà comment ça se passe, voilà ce qu'on devrait faire. Ben non, des fois c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et la complexité ne passe pas par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est là où la complexité s'arrête. Eh bien, effectivement, je crois qu'on essaye de s'appuyer et de montrer un monde qui est celui complexe, toujours complexe, et vous verrez que dans le Bureau des légendes, il n'y a pas beaucoup de méchants, quoi. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est toujours, ça passe de l'un à l'autre, parce que, effectivement, le monde est comme ça. Et je crois que c'est ce monde-là que les services de renseignement ont pour job de décrire, parce que c'est celui-là auquel on a affaire.
Alors, on est en public de la Sorbonne, dans ce beau grand amphi, dans le cadre de notre forum Les Idées Claires, avec vous, Éric Rochant, avec Lucas Manger, de France Info, pour discuter des fausses informations, des manipulations, de la fabrique aussi de l'opinion. Un mot de cette nouvelle saison du Bureau des légendes qui va regarder résolument vers l'Est du Moyen-Orient dans la précédente saison. Là, les enjeux se déplacent vers la Russie, sur le terrain de la cyberattaque. Quel hasard. C'est étonnant parce qu'en ouvrant le journal ce matin, on entend parler de quoi ? D'une campagne mondiale de cyberattaque attribuée à la Russie par un front occidental uni. Vous les avez lus aussi sûrement ces infos. Moscou, une nouvelle fois accusé d'espionnage avec l'inculpation de 4 espions aux Pays-Bas, des autorités néerlandaises qui auraient mis la main sur un nouveau nid d'espions. En fait, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est presque ce que vous avez déjà anticipé, Éric Rochant, il y a un an. Alors, comment ça se passe, justement, pour le scénariste que vous êtes, dans cette temporalité? Il y a forcément une anticipation qui doit jouer, puisque votre série que vous imaginez il y a un an, elle doit nous parler encore aujourd'hui. Et il y a aussi une atmosphère que vous allez tenter de rendre à travers la série. Qu'est-ce que vous privilégiez, là encore? Une anticipation juste des faits qui peuvent advenir ou l'atmosphère, la vision que vous souhaitez porter avec la série?
Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on raconte des histoires. On raconte des histoires, on veut émouvoir. C'est notre premier principe. On veut que les gens aient des émotions. Parce que c'est à travers l'émotion qu'on dit la vérité sur un certain nombre d'affects. Sur l'amour, sur la jalousie, sur la haine, sur l'envie, sur l'amitié, bref. On essaie de dire ce que c'est. On essaie, à travers nos films, de définir ce que c'est, de définir qu'est-ce que c'est que l'amour. Ben, c'est dire je t'aime. Non, c'est pas dire je t'aime, c'est peut-être plus compliqué. Puis en plus, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. On ne sait pas ce que c'est, du coup. Et donc, on essaie, à travers des métaphores narratives, des métaphores cinématographiques, on essaie de dire le vrai sur les choses. Bon. Donc notre premier principe, notre premier objectif, c'est juste de raconter des histoires et de créer des émotions. Alors effectivement, on a ce côté un peu manipulateur qui consiste à dire on ne créera jamais aussi bien des émotions qu'en faisant croire nos histoires, en les rendant crédibles. Et donc pour les rendre crédibles, on va les inscrire dans un monde que les gens connaissent. On va pas inventer le monde, justement. Pour mieux rentrer dans l'histoire, on va inscrire nos histoires dans le monde qui entoure les gens, dans le monde contemporain. Et donc, du coup, en fait, le réalisme est au service du plus grand mensonge. Le réalisme est au service juste de la fiction. Mais c'est pour mieux faire croire à nos histoires. Donc, comment on fait pour ne pas être obsolète d'une saison à l'autre? Comment on fait pour rester toujours contemporain du monde qu'on décrit? Je crois que, en fait, on essaie d'identifier les tendances de fond, les tendances profondes qui ne s'éteindront pas, les mouvements de fond et profonds qui ne s'éteindront pas d'une année à l'autre. Vous voyez, c'est justement parce que la Russie est entrée sur la scène internationale, en fait, a repris la main sur un certain nombre de sujets. Ça, c'est là depuis 2-3 ans, et nous en parlons maintenant, et je pense que c'est là encore pour quelques années.
J'avais pour ma part une dernière question et je laisserai à Lucas la toute dernière sur la place du complot dans le cinéma. Il y a un cinéma de la conspiration qui existe depuis longtemps, qu'on peut dater principalement de l'assassinat de Kennedy, filmé, dont d'ailleurs Oliver Stone a fait un très beau grand film, même s'il a fait beaucoup polémique, JFK. On pourrait aussi donc évoquer tout ce cinéma qui s'inspire de la manipulation des images et tente de le raconter, montrer comment la réalité peut se présenter sous le masque des apparences et de la fiction. Et là, je pense à William Carell avec son film Opération Lune, ce faux documentaire sur les premiers pas de l'homme sur la Lune en 69, qui nous montrait bien le pouvoir de manipulation des images. Pourquoi le cinéma s'intéresse depuis toujours au complot? Qu'est-ce qu'il y trouve?
Le cinéma s'intéresse toujours au mensonge, que ce soit le complot ou autre chose, mais parce que le mensonge, c'est un moteur de romanesque. Quand on ment à quelqu'un, ça c'est créer le désir, par exemple. Parce que quand on ment à quelqu'un, la première chose qui doit arriver un jour ou l'autre, c'est qu'on soit un peu grillé, quoi. C'est que le mensonge soit révélé. Et donc, mentir à quelqu'un, c'est tout de suite provoquer, c'est tout de suite créer un désir. Le désir que le mensonge soit révélé. Et surtout, la crainte que la vérité soit révélée. Donc, cacher quelque chose à quelqu'un, c'est de toute façon tout de suite être dans le registre du désir. Et donc, ce registre-là, c'est le registre romanesque. Pourquoi les histoires d'espionnage m'intéressent? Uniquement parce que, en fait, on peut raconter des histoires où des vérités peuvent apparaître, des mensonges peuvent tomber, et donc du coup, une certaine nudité peut apparaître, la nudité du désir, la nudité de l'existence, la nudité de la crudité de l'existence et des affects. Ça, c'est intéressant parce que ça nous concerne tous, c'est notre monde. Donc, je dirais que le complot, mais plus généralement le mensonge, c'est un moteur romanesque. Et c'est pour ça que c'est pour ça qu'on en parle souvent dans les films ou dans les romans.
Est-ce que finalement les plus grands fabricants de fausses informations aujourd'hui ne sont pas devenus les meilleurs scénaristes du monde puisqu'ils écrivent ces histoires à l'avance? Comme vous le faites pour le Bureau des légendes, comme vous le faites pour n'importe quel film, il y a un but à la fin de jouer sur des émotions, comme vous l'avez bien expliqué aujourd'hui. Est-ce qu'ils ne sont pas devenus les meilleurs scénaristes du monde qui nous entoure?
J'aurais envie de dire non quand même, mais...
Mais vous pensez oui?
Je pense qu'on est certains à écrire mieux les histoires que eux, mais c'est parce qu'en fait c'est des histoires toujours simples. Non, ça c'est pas des bons scénaristes. Parce qu'en gros, les bons scénaristes, ce sont ceux qui vous immergent dans un monde, vous vous laissez aller, mais souvent en fait ce sont des histoires trop simples, trop grosses. On dit que les ficelles sont trop grosses. Les ficelles sont toujours trop grosses. Et écrire une bonne histoire, c'est faire en sorte que les ficelles ne se voient pas. Et c'est pour ça que c'est la manipulation consentie. On a envie de se laisser entraîner. Mais attention, est-ce que ça va pas trop gros? Parce que si c'est trop gros, on n'y arrivera pas. On va s'arrêter tout de suite. On n'en aura pas. On va se sentir trahi par les auteurs. Quand on entre dans une salle de cinéma ou qu'on regarde une série, on a un investissement émotionnel. On s'investit émotionnellement. On est prêt à rester une heure et demie, 2 heures, voire 10 heures devant un écran. C'est un investissement énorme. On n'a pas envie d'être déçu. On n'a pas envie d'être trahi. Souvent, on arrive, on regarde une histoire, on suit une histoire, et à la fin, c'est tellement décevant qu'on a l'impression non seulement d'avoir perdu du temps, mais surtout d'avoir été trahi, d'avoir été, d'avoir été trompé. Et ça, c'est vrai que les bons scénaristes sont ceux qui ne vous trompent jamais. En fait, qui créent chez vous un désir, mais qui ensuite font en sorte qu'à la fin, vous en avez pour votre désir, non pas pour votre argent, vous en avez pour votre désir. Mais la manipulation de l'information, c'est quand même des manipulations très grosses. Alors ça marche.
Ça marche parfois.
Ça marche parfois, mais on peut pas dire que l'histoire ne dira pas que ces histoires seront les meilleures.
Un petit cliffhanger pour terminer, non? Vous l'aviez pas prévu.
pas prévu de cliffhanger, malheureusement.
Un grand merci à vous, Éric Rochand. Merci.
Merci à vous.
Merci beaucoup, Éric Rochand, d'avoir passé cette demi-heure avec nous pour cette conférence dialogue de clôture de notre forum Les Idées Claires. Merci beaucoup, Lucas Manger. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table qui a préparé cette émission et notamment à Laura Dutèche-Pérez et à Maya Neskovic. Merci à notre chargé de production, Guillaume Rialan, et aux équipes techniques de Radio France, Gilles Manet, Olivia Branger, Tanguy Le Corneau et Benjamin Thuot, à Alexandre Fougeron à la réalisation aujourd'hui. Enfin, un grand merci à la Sorbonne de nous avoir accueillis pour ce forum et ces bons moments d'échange. Merci à tous. Merci.